Bonjour. L'objectif du partage de ce matin, c'est de vous transmettre ce que j'ai reçu sur le cœur. Et en fait, le sujet, c'est l'Église, qui est le corps de Christ. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter notre prise de conscience que dans notre relation avec Dieu, nous ne sommes pas seuls, mais nous faisons partie d'un corps qui est composé de beaucoup de membres et que les membres ne sont pas seulement ceux auxquels on pense en premier, c'est-à-dire dans notre église ici à Hazebrouck, mais beaucoup plus large. Et je pense qu'ici, c'est super. On a ces derniers mois, ces dernières années, vécu quand même des choses, notamment avec nos frères et sœurs du CADA, qui nous ont aidés à élargir notre vision. C'est que nos frères et nos sœurs du CADA, ils viennent de loin, mais ils font partie du corps de Christ exactement comme nous. Et on a aussi des frères et des sœurs à la jungle de Calais. Il y a aussi des chrétiens. Là, il y en a dans d'autres jungles, il y en a qui le sont, peut-être pas encore aujourd'hui, mais qui sont en devenir de faire partie du corps de Christ. Et donc notre vision de ce qu'est l'Église, elle ne doit pas être restrictive, on ne doit pas penser que à notre nombril, à nous-mêmes, mais elle est beaucoup plus large. Dieu, quand il regarde sur la terre, il ne voit pas que notre Église, il voit toutes les Églises. Il voit tout son peuple. Et nous, nous n'en voyons qu'une partie. Et si on réfléchit, on a de la chance d'être enrichi par les autres Églises, par les autres chrétiens qu'on peut être amené à côtoyer. Nos frères et sœurs du CADA, malheureusement, on est triste quelque part, ils sont plus là, mais ils font toujours autant partie de l'Église, même s'ils se sont attachés à d'autres communautés. Mais le temps de leur passage chez nous, on a été enrichi. Et on est reconnaissant au Seigneur pour ce qu'on a reçu d'eux. Et le Seigneur nous enverra sûrement encore d'autres enrichissements. Et on va aborder plusieurs domaines, enfin plusieurs axes du corps de Christ, parce que l'Église en parle, hein. Et on va se poser une première question, c'est quel est l'objectif de l'Église? Quel est l'objectif du corps que nous formons? Alors j'ai réfléchi, et en fait, l'Église, qui est appelée le corps de Christ, elle est aussi appelée l'épouse de Christ. Et il y a une magnifique analogie entre le mari, sa femme, et Christ, et l'Église. Et tout au long de la Bible, il y a ces analogies. Et en fait, les dysfonctionnements qu'on peut remarquer dans un couple, ils existent aussi dans l'Église, un peu de la même façon. On ne va pas entrer dans tous les détails, mais c'est intéressant de réfléchir quand quelque chose ne va pas aux analogies qui existent, les parallèles qui existent dans le monde, entre le monde spirituel et le monde terrestre. Et alors, quel est l'objectif de l'Église, du corps de Christ? Si on regarde quand Dieu a créé Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Église est donc quelque part une aide pour Christ. Alors, en quoi sommes-nous, tout le corps, tous les membres, sommes-nous une aide pour Christ? Est-ce qu'il a vraiment besoin de nous? Franchement, il aurait pu tout faire tout seul. Mais il a choisi une épouse pour l'aider dans sa mission. Et nous avons donc une mission à accomplir sur la terre pour accomplir la volonté de Christ. Et c'est ce qu'on fait ou qu'on essaye de faire. Il attend de nous quelque chose. Nous sommes l'aide de Christ. Alors, quelle est cette aide? On doit être utile à notre Créateur. Et est-ce que, en tant qu'Église locale, on est utile à notre Créateur? Est-ce qu'on est à son service? Je pense que oui. Alors, c'est sûr qu'on peut faire toujours mieux. On peut toujours aller plus loin. Mais c'est l'objectif que nous devons poursuivre. Et en tant que membre individuel, parce qu'on va aussi parler je veux qu'on réfléchisse à chacun de nous. Est-ce que moi, Emmanuel, ou est-ce que vous, chacun, en disant votre prénom, est-ce que dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez, et je vais dire dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce qui nous motive dans notre service pour Christ, est-ce qu'on cherche complètement l'intérêt de Christ? Est-ce que dans toutes nos démarches, dans nos paroles, dans nos actes, dans tout ce qu'on fait, est-ce que l'unique objectif que nous poursuivons, c'est l'intérêt de Christ? Je sais, et je vous l'avoue, que quand j'étais plus jeune, mais sûrement quand je serai plus âgé qu'aujourd'hui, je remettrai sûrement en question des choses que j'aurais faites aujourd'hui, parce que on mûrit, on a au fil du temps. Mais est-ce que quelquefois on ne poursuit pas notre propre intérêt? Est-ce que quelquefois dans ce qui nous motive, dans nos actions, dans ce que nous faisons dans l'Église, est-ce que quelquefois on n'a pas la poursuite de la recherche d'un intérêt personnel? C'est à nous d'y répondre, à nous de réfléchir, mais quelquefois, on va se lancer dans quelque chose, et plus tard, on va analyser, on va se dire, ouais, c'est vrai, dans cette action-là, c'est mon intérêt que j'ai cherché. J'ai cherché peut-être à me mettre en avant, ou inversement, à m'effacer, à disparaître, parce que j'avais pas envie de ci, j'avais pas envie de ça, et en ne faisant pas quelque chose, j'ai aussi cherché mon intérêt. C'est autant dans un sens que dans l'autre. Et comme ça a été dit tout à l'heure, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et quelquefois, par paresse, on ne va pas exercer une mission que le Seigneur nous met sur le cœur parce qu'on va chercher notre intérêt de paresse. Parce que c'est l'intérêt qu'on cultive. C'est autant pour ceux qui font des choses que pour que ceux qui ne font pas des choses. Alors, dans tout ce que je fais en tant qu'individu, en tant que personne qui veut servir Christ, est-ce que c'est toujours réellement son intérêt que je cherche? Je ne veux pas que tout s'écroule, mais c'est important qu'on se pose la question. Je veux faire ça ou je me mets à faire ça? Quel est l'intérêt que je poursuis? Est-ce que c'est vraiment l'intérêt de Christ? Dans notre avance, dans notre progression, nous nous devons aussi en tant qu'Église, mais aussi en tant que membres, d'être toujours au bénéfice des soins du Créateur. Est-ce que nous recevons ces soins? Est-ce que nous prenons le temps de nous asseoir régulièrement pour recevoir de lui les soins dont nous avons besoin? Quand je dis les soins, c'est tout azimut. Parfois, nous sommes fatigués, nous avons besoin d'être renouvelés par lui. Est-ce que nous puisons nos forces en lui? Est-ce que nous nous nourrissons en lui? Est-ce que c'est lui qui assure notre subsistance? Est-ce que c'est lui qui assure notre entretien? Ou est-ce qu'on essaye de se débrouiller par nous-mêmes? On doit dépendre constamment de Christ. Donc l'objectif du corps de Christ, c'est d'être au service et de ne chercher qu'un seul intérêt, celui de Christ, de Dieu, du Saint-Esprit, mais tous, ils sont un de la personne de Dieu. Et si on réfléchit au niveau du corps, c'est pas pour rien que dans Corinthiens, il y a bien question de l'analogie, de bien parler des membres, etc., etc. Hein, on va y venir. Dans le corps, il y a combien de cerveaux ? Il y en a un seul. Et tous les membres sont différents. Et c'est vrai que l'appareil digestif, ils ont dit que c'est un deuxième cerveau, hein, Maïtena, je sais. Mais il y a un seul centre qui va prendre les décisions de tout le corps. Et la tête, vous devinez, c'est qui ? Ben, c'est Christ. C'est lui qui est la tête de l'Église. C'est lui qui va prendre toutes les décisions. Et bon, on ne va pas entrer dans toute la complexité du corps humain. Hein. Michael, il saurait bien mieux le faire que moi. Et bon, je sais qu'il y a des influx électriques qui passent dans la moelle épinière et tout ça. Tout est transmis, c'est une machine. Le corps humain, c'est une machine extrêmement complexe et merveilleuse. D'ailleurs, on a bien du mal à croire que c'est arrivé par hasard. Hein. Mais en tout cas, tous les membres reçoivent la même information. Il y a une cohésion remarquable dans ce que le cerveau décide et que tout le corps va suivre. Et est-ce que notre Église en est à ce stade d'unité, de réponse parfaite à l'influx nerveux envoyé par le Saint-Esprit qui vient du Père ? C'est sûr qu'on a plein de progrès à faire. Est-ce qu'on a vraiment cette unité entre nous ? Juste en tant qu'église locale, cette unité parfaite, semblable à celle qui existe dans le corps humain. C'est beau, hein, quand on réfléchit sur comment fonctionne le corps humain, toute cette cohésion des membres qui prennent soin les uns des autres. Eh bien, tout reçoit le même cerveau, tout notre corps reçoit le même influx. Et on pourrait le comparer un peu, j'en ai déjà parlé il y a très longtemps, des horloges. Vous savez, là il y a une horloge. Vous avez chacun votre montre, ou l'heure, vous recevez l'heure chacun sur votre téléphone portable. Et vous savez très bien, si moi j'ai ma montre, je vais dire à Michael, vas-y, dis-moi quelle heure t'as dessus. Ben, vas-y, dis-moi, quelle heure il est à ta montre ? Bon, ben moi, j'ai 11h27 et 30 secondes, 31, 32, bon, je sais qu'elle avance. Hein. Mais en fait, on a chacun notre horloge, et d'accord ? Et il n'y en a pas deux qui ont la même heure. Il y en a un qui, même si on est presque à l'heure, il y en a un qui est sur le tic et l'autre, il est sur le tac. Et on a chacun des décalages. Et il y a une solution à ça, c'est de recevoir tous le même signal d'horloge. Et ça existe. On appelle ça les horloges radiopilotées. Il y a un émetteur branché sur une horloge atomique, on ne va pas entrer dans les détails du fonctionnement, mais en fait, ça émet par les ondes hertziennes le signal de l'heure, avec un grand H. Et toutes les horloges radiopilotées du monde, enfin au moins en Europe, parce que je ne sais pas si ça émet sur tout le monde, mais il y a sûrement des relais, mais toutes les horloges qui sont radiopilotées, qui reçoivent ce signal, elles sont rigoureusement à la même heure. Et ceux qui ont chez eux une horloge radiopilotée, parce que ça se développe quand même de plus en plus, n'ont plus besoin de les changer l'heure d'été et l'heure d'hiver, ça se fait tout seul. Vous levez au matin, vous avez l'heure, nous on a l'heure qui est projetée au plafond, c'est l'heure exacte. Il n'y a pas à se dire, oh purée, elle avance peut-être, je vais peut-être être en retard, non. C'est l'heure, la vraie heure, la bonne. Et moi, j'aime bien avoir la vraie heure. Dans la cuisine, on a une horloge radiopilotée, sauf quand la pile est vidée. Mais elle nous indique l'heure, la bonne heure, la vraie heure, exacte. Elle a bien plus qu'à la seconde près, même si on ne la voit qu'à la seconde près, parce qu'il y a une trotteuse. Mais est-ce que notre Église, elle est au diapason de l'heure de Christ? Est-ce qu'on reçoit le signal de l'heure exacte par le Saint-Esprit? Est-ce qu'on est tous au même diapason? Dès que le Seigneur veut nous dire quelque chose, est-ce qu'on reçoit son message et qu'on obéit, qu'on est transparent, qu'on le laisse passer au travers de nous et qu'on le transmet, qu'on le reçoit, qu'on lui obéit? C'est comme ça que ça devrait être. On devrait tous être des horloges radiopilotées à l'écoute du signal divin. Et là, qu'est-ce que ça marcherait, le peuple de Dieu? Toutes les églises sur la même longueur d'onde, chacun des membres exactement sur la même longueur d'onde, on ferait tout simplement la volonté de Dieu au quart de pouillème de seconde près. Il n'y aurait pas de décalage. Et ce serait beau. Et on doit tendre vers ça. Alors ça, c'est la perfection, hein. Mais on doit chercher, dans notre relation personnelle avec Christ, à recevoir ce signal. Et en tant qu'Église, qui est tout simplement beaucoup de membres mis les uns à côté des autres, en ne parlant que de la nôtre ici, si on reçoit tous le même signal d'horloge, on est tous en phase. On est tous unis. On est tous d'accord. Et on œuvre tous dans le même sens, et il n'y en a pas un qui cherche son intérêt, qui cherche à se soustraire de quoi que ce soit. On avance, on est unis, et c'est super. Et c'est vers ça qu'on doit tendre. Alors, la question à se poser ce matin, en ce qui concerne cette horloge, est-ce que je suis une horloge radiopilotée, ou est-ce que je suis une horloge individuelle. Vous savez, les petites horloges individuelles, elles ont toutes un petit quartz dedans de 32 768 Hz. Ça veut dire qu'il bat 32 768 coups par seconde. On divise par deux, on divise par deux, et puis on arrive à une seconde. Mais si jamais on loupe un coup, ben peu à peu, il y a un décalage. Et notre horloge individuelle, elle se décale. Elle se décale dans le temps. Et est-ce qu'on est un chrétien qui s'est décalé au fil du temps, qui a pris des mauvaises habitudes, qui a laissé des choses s'insérer dans sa vie et qui ne reçoit plus le signal divin? Ou est-ce qu'on est une horloge radiopilotée qui reçoit à chaque instant l'influx nerveux de Dieu? Il faut qu'on se pose chacun la question. On va lire, juste pour conclure ce petit morceau, dans 1 Corinthiens 12, chapitre 4. Je vais vous lire, c'est juste un verset. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il n'y en a qu'un seul esprit. De la même façon qu'il y a un seul signal d'horloge, qui est le bon, qui est le vrai, qui est la vérité, et qui vient de Dieu. C'est ce signal-là, c'est l'Esprit de Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Et si chacun de nous, on le reçoit, on a beau être tous différents, on a beau exercer chacun des dons différents dans l'Église, on est tous en phase, parce qu'on reçoit l'unique Esprit qui vient du ciel, qui est l'Esprit de Dieu. On va lire tout de suite, toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 20 à 27. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Bon, je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Bon, je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est beau, hein? Et c'est vraiment une belle illustration de l'Église. Donc, tous les membres sont différents. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui sont par paire. Regardez mes mains, j'en ai deux, mais elles sont différentes. Elles sont symétriques. Heureusement, c'est plus beau comme ça. Mais elles ont chacune quand même une fonction. Moi, je suis droitier. Il y a des choses que je sais faire de la main droite et que je ne sais pas faire de la main gauche. Mais il y a des choses que je sais faire de la main gauche et que je ne sais pas faire de la main droite. Et c'est pareil pour chacun de nous. Et ma main gauche, elle a besoin de ma main droite. Mon œil gauche, il a besoin de mon œil droit. C'est vrai qu'on a deux yeux, on peut se dire, pourquoi c'est hyper précieux d'en avoir deux. On perçoit beaucoup mieux les distances avec deux yeux qu'avec un seul. Vous avez déjà essayé de vous fermer un œil? On a du mal à apprécier les distances. Mais on en a deux, ça crée une mesure de parallaxe qui est calculée, qui est intégrée par le cerveau, et ça nous permet de détecter les distances et de bien les apprécier. Mais il y a énormément de fonctions dans notre corps humain qui font que on a besoin de tout. Et si Dieu a créé ainsi notre corps, c'est bien parce que tout est nécessaire. Et de la même façon, chacun de nous, ici présent ce matin, on est important. Il n'y a personne qui doit se dire « Oh moi, que je sois là ou pas là, c'est pareil. » On vient de le lire. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « Je n'ai pas besoin de vous ». Ce n'est pas ça que je voulais dire. C'était où? Ah, non, c'est pas là. Comme quoi, je fais pas partie du corps parce que je suis pas... c'était avant parce que j'ai tourné la page et moi je cherchais. Merci Grégoire. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Donc, chacun d'entre nous, nous faisons partie du corps et nous sommes indispensables à la bonne marche du corps. Alors, il y en a qui ont des rôles qui se voient plus que d'autres. C'est vrai, il y a des membres, ils ont plus d'honneur. Ils ont été disposés comme ça dans le corps. Il y en a qui sont plus cachés. Il y en a qui parlent au micro, il y en a qui viennent jamais parler au micro et qui passent du temps dans l'ombre à prier, qu'on ne voit pas. Et pourtant, tout le monde est nécessaire. Tout le monde est indispensable. Personne ne doit se dire « Oh ben moi, comme j'ai pas ça, je fais pas partie du corps. » On est tous indispensables. On fait tous partie du corps. Et Christ nous a placés là, de la même façon qu'il a placé ma main, là au bout de mon bras droit. Elle est indispensable. Et toi aussi, tu es indispensable. Et si on réfléchit au fonctionnement du corps physique, chaque membre, chaque organe est différent. Chacun, ils ont une fonction différente. Mais il n'y en a aucun qui cherche son propre intérêt. Par exemple, quand on mange, c'est bon dans la bouche, mais est-ce que la bouche garde tout? Non. Elle va très gentiment transmettre ce qu'elle a beaucoup apprécié à l'œsophage. L'œsophage, il va se régaler aussi au passage. Et il va transmettre ce qu'il vient de déglutir à l'estomac. Et dans l'estomac, c'est doux, c'est bon. L'estomac ne va pas garder tout pour lui non plus. Il va le transmettre à l'intestin grêle. J'espère pas oublier des étapes. Hein, mais... Bon, il va transmettre à l'intestin grêle. Et lui aussi, il va se régaler. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va transmettre au gros intestin, mais au passage, il va laisser passer plein de bonnes choses, tout ce qui est nécessaire dans le sang. Et le sang, c'est pareil, il ne va pas tout garder, il va le transmettre aux cellules. C'est terriblement compliqué tout ça. Mais c'est beau. Vous voyez toute cette unité. Il n'y en a aucun qui a été fait pour garder pour lui. Chacun en transmet à l'autre. Et tout le monde est nécessaire. Ceux qui ont des problèmes dans un intestin qu'il faut couper un morceau plus ou moins long, ben c'est embêtant parce que ça ne fonctionnera plus comme avant. Le pancréas, le foie, il y en a qui sont obligés de subir une ablation. Ben après, il faut remplacer par des médicaments parce que c'était indispensable. Et que tu sois la bouche, que tu sois l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle ou le côlon, tu es indispensable. On ne peut pas te retirer. Tu es nécessaire dans le corps de Christ. Et ça, c'est, je parle juste entre nous, mais notre Église, dans le grand corps de Christ, elle est tout autant indispensable, on s'en rend peut-être moins compte, mais c'est super. Les actions qu'on est amené à faire, il y avait l'Assemblée Générale, Paul nous exprimait des besoins d'autres églises. Mais c'est super qu'il y ait ces actions inter-églises qui montrent vraiment qu'on est un corps. Et cette bouche que nous sommes, nous transférons à l'œsophage d'une autre église parce que nous donnons quelque chose pour eux, ils en ont besoin. Donc c'est vrai à tous les étages. Et dans notre corps, tout a été fait pour transmettre. Je viens de vous parler de la bouche, mais je pourrais aussi vous parler de l'appareil respiratoire. Quand on respire un bon bol d'air frais ou d'air chaud, selon nos besoins, ça passe dans le nez ou ça passe par la bouche. Et oh, ça fait du bien, une bonne bouffée d'air. Mais notre nez ou notre bouche ne garde pas l'air pour lui. Le transmet aux bronches, qui le transmettent à tout le réseau jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Et oh, l'oxygène va jusque-là, bien au fond des poumons, et vous croyez que ça reste là? Maintenant, tout a été conçu pour transmettre à l'autre. L'oxygène va passer par les alvéoles pulmonaires dans le sang, et le sang, vous croyez qu'il va le garder? Ben non! C'est transporté par les globules rouges qui vont le transmettre aux cellules. Et ensuite, il y a le sang, le cœur et tout ça. Mais on pourrait en faire des analogies. Réfléchissez à tout ça, comment ça fonctionne. Mais c'est une machine merveilleuse. Et si l'Église est comparée au corps de Christ et que l'apôtre Paul a étalé tout ça, il n'est pas entré dans les détails de l'appareil respiratoire, digestif, et il y en a sûrement bien d'autres encore à considérer pour aller encore plus loin dans la comparaison. Mais c'est bien parce qu'on doit fonctionner de la même façon. L'analogie, elle est faite à ce point que, ben si, on doit fonctionner comme ça. On ne doit rien garder pour nous. On a été fait pour transmettre à notre frère, à notre sœur. Et si on ne le fait pas, ben on doit être malheureux. Moi, si je vous l'avoue, hein, quelquefois, j'ai quelque chose sur le cœur. Et puis, il se trouve, il y a des circonstances où je ne suis pas en forme, je suis fatigué. Je me dis, oh, je vais laisser la place à d'autres. Après, on est malheureux. Parce qu'on aurait pu communiquer quelque chose de bien, qui aurait fait du bien à quelqu'un, et on ne l'a pas fait. Dans ce cas-là, on est une bouche qui a gardé l'aliment dedans et qui ne l'a pas transmis à l'œsophage. Et c'est dommage, parce qu'on n'a pas été fait pour ça. On a été fait pour donner. Et je n'ai pas prévu de parler de tout ça, mais ça me vient là, mais donner, et il vous sera donné. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Celui qui donne, il recevra au centuple. Et c'est vrai, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Et si on veut être plus joyeux, il faut donner plus. Et c'est vrai, quelque part, c'est notre raison d'exister, de donner. Celui qui donne jamais, il est égoïste, il est tout renfrogné, tout dans son coin, il rumine dans son coin, et il a perdu sa raison de vivre. Si vous n'êtes pas d'accord ? On a été fait pour donner, pour transmettre, pour enrichir les autres. Et qu'a fait Jésus quand il était sur la terre ? Il n'a cessé de donner. Et nous, on a été conçus aussi pour donner. Et si on ne donne pas, on dysfonctionne. Et on va régresser. Donc il faut qu'on donne. Après, c'est facile à dire. Hein. Mais je me le dis à moi aussi, hein, tout ce que je nous le dis ce matin. Et quel est... On continue dans notre démarche, je vois le temps qui passe. Quel est le liant dans tout ça qui assure la cohésion du corps de Christ ? C'est l'amour. L'amour, c'est le liant du corps de Christ. C'est ce qui va relier les membres les uns aux autres. Ce sont les ligaments qui vont tout attacher. Et il y a un verset que j'aime bien. L'amour couvre une multitude de péchés. Alors, je ne suis pas en train de dire faisons chacun ce que nous voulons, péchons tant que nous voulons. De toute façon, avec l'amour, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est pas ça, hein. Mais il faut qu'on compare quand même l'amour qui couvre une multitude de péchés au légalisme qui condamne. Est-ce que je suis un chrétien légaliste qui condamne? Pensons un peu aux pharisiens avec la femme adultère. Et Christ, qui a exercé l'amour et qui lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Il n'a pas encouragé à continuer, hein. Va et ne pêche plus. Quels chrétiens sommes-nous ? Quels membres sommes-nous dans le corps de Christ ? Est-ce qu'on est un membre qui exerce l'amour en couvrant ? Ou est-ce qu'on est un chrétien qui dit ta 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 ta. Vous mettez tous les mots, tout ce que vous voulez sur ces onomatopées. Vous savez, un chrétien qui ta 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 ta, ben les ligaments ils tiennent pas bien. Hein. Aimer, c'est pardonner. C'est pas, oh, tu m'as fait ça, et ben, je vais m'en souvenir. Non, c'est, je pardonne. J'aime. J'ai eu mal, mais je continue. Je continue à t'aimer parce que tu es justement le membre que le Seigneur a mis à côté de moi. Et les ligaments, ils vont tenir. Cet amour qui doit régner au sein du peuple de Dieu, qui doit régner entre nous, qui doit régner à l'échelle bien plus large, entre les chrétiens. Est-ce que j'aime comme Christ m'a aimé ? Une sacrée question, hein ? Et on a, c'est sûr, plein encore de choses à apprendre, plein de progrès à faire pour vraiment aimer les membres du même corps que nous, du même amour que Christ nous a aimés. C'est sûr qu'on a encore plein de progrès à faire. Et il faut méditer là-dessus et le chercher. Parce que, vous savez, c'est un peu curieux, marrant, mais tous ces versets que je vous invite à lire, hein, dans 1 Corinthiens 12, où il est question du corps de Christ, en fait, c'est l'endroit où il est question des dons spirituels. Parce que Le corps de Christ, il est piloté, conduit par l'influx nerveux, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, le signal de l'horloge pilotée, qui est le Saint-Esprit, qui nous est donné quand on devient enfant de Dieu. Et dans tout cet influx, c'est sous l'onction du Saint-Esprit que tout va s'exercer, que l'amour va s'exercer. Et justement, le chapitre qui suit tout ça, ben c'est la voie par excellence. C'est le chapitre 13, hein, Corinthiens 13, on le connaît tous. Ben c'est l'amour. Une superbe description de ce qu'est l'amour. Vous voyez, tout ça, ben ça se suit. C'est une suite logique. Et on ne peut pas faire fonctionner l'un sans l'autre. C'est obligé de fonctionner ensemble. Si on soustrait l'un, ben on retire un élément qui est important. On ne peut pas, en tant que chrétien, fonctionner sans cet amour qui vient du Père. D'ailleurs, quel est, je l'ai noté, oui, à la fin, bon, c'était dans la conclusion, mais c'est pas grave, je vais le dire maintenant, qu'a dit Jésus ? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est même un moyen d'identification du peuple de Dieu. Ils ont de l'amour. Ils font partie du peuple de Dieu. Alors, aimons-nous les uns les autres. Mais ça, j'ai vraiment l'impression qu'on s'aime. Hein? Alors, je vais continuer avec un autre petit morceau qui va être plus court. C'est que vous savez que le corps, et il y en a beaucoup en ce moment, dans ma classe, j'en ai plein, j'ai plein de malades. Alors, on a les mêmes maladies qu'en hiver, des températures de 40, 40,3, il y en a 39. Les enfants sont très malades en ce moment parce que bah, les médecins disent ouais, bah, c'est un virus. C'est vrai, on a un temps qui n'est pas du tout de saison, ça y est sûrement pour quelque chose. Bah oui, quelquefois, le corps tombe malade. Et le peuple de Dieu, l'Église, le corps de Christ, ça lui arrive aussi d'être malade. Et pourquoi on est malade ? Ben parce que quelquefois, on chope un virus. Et le virus, ben, il va venir agresser le corps, il va venir nuire au corps. Et si on ne le traite pas, ben on peut être très mal en point et être détruit. Bon, heureusement, dans notre corps, il y a un système immunitaire. S'il fonctionne bien, il vient à bout du virus et on guérit. Mais parfois, en fonction des virus, on a besoin d'un coup de pouce, hein, d'antibiotiques ou de médicaments. Mais pourquoi on tombe malade quelquefois ? Ben, on tombe malade parce que quelque chose de pas bien s'est introduit dans l'organisme. Et une église peut aussi être malade parce que quelque chose de pas bien s'est introduit en elle. Alors la première chose à laquelle j'ai pensé en parlant de ça, c'est la langue. Il y en a été question il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus qui avait parlé de la langue. Grégoire, non ? Non ? Je ne sais plus. C'était Sophie. Ben oui, parce que c'est vrai que la langue, ça va vite. Hein. On est tous d'accord. Par la langue, en quelques paroles ou quelques phrases, on peut rendre quelqu'un malade. On peut faire tellement de mal juste avec la langue. Et Jacques, il en parle. Et ça, c'est un élément, par exemple, qui peut faire que le corps tombe malade. Parce que par la langue, il a reçu, entendu des choses qui font mal, qu'il n'aurait pas fallu dire. Et il faut être humble, hein, ça va tellement vite. Une maladresse, quelquefois quelque chose de mûrement réfléchi et qui est dit, hein. C'est pas forcément une maladresse, mais il faut tellement être vigilant, tellement. Mais on peut être malade, le corps peut devenir malade à cause de ça. Et quel est le remède quand on est malade? Quand le corps est malade, ben on va prendre un médicament, on va se soigner, on va se reposer. Mais d'un point de vue spirituel, le moyen de faire la barrière à ces microbes, ces vilains microbes qui viennent perturber le bon fonctionnement du corps. Ben, la solution, elle est dans Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si chacun d'entre nous, on est vigilant, qu'on résiste, ben le diable ne pourra pas nous toucher. C'est pas plus compliqué. Et si Dieu lui-même nous a dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous », ça veut dire qu'on en est capable, qu'il nous en a rendu capable. Plus loin dans Éphésiens 4, 27, « Ne donnez pas accès au diable. Il ne faut pas lui ouvrir une seule porte. » Vous savez, quand on chope un rhume, souvent, les microbes, ils entrent par les yeux, par la bouche, par le nez, parce que c'est une surface d'échange. Moi, je sais, je commence à éternuer, j'ai les yeux qui piquent, et j'ai remarqué que si rapidement, dès que je sens que ça pique, si je vais me laver les yeux à l'eau, et mais bien, hein, pas de savon, bien sûr, mais on lave bien, on rince bien les cils, tout ça. Eh bien, moi, j'ai remarqué que plusieurs fois, beaucoup de fois, ben, le rhume n'est pas allé plus loin. Je sentais juste que ça piquait. Je commençais à éternuer, ça me dit « oulala ». Il y a plein de fois où je ne faisais rien avant de trouver ça. Ben, si je lave tout de suite bien, ben, j'échappe au rhume. Alors maintenant, quand je sens qu'on dirait que ça va commencer, ben, hop, moi, je vais me laver. Moi, je vais me laver les yeux. Et puis, j'échappe au rhume. Parce que c'est important. Il ne faut pas laisser quoi que ce soit entrer et qui est mauvais. C'est vrai au sens charnel du terme, mais c'est pas pour rien. Il y a l'analogie qui est faite avec le monde spirituel. Eh bien, ne laissons rien passer. La porte, elle doit être fermée. Il faut veiller, résister, ne pas donner accès au diable. Et puis on va être tranquille, on va pouvoir avancer. Mais c'est facile à dire, mais c'est dur à faire. Mais il faut s'efforcer. Jésus ne nous a jamais dit que ça allait être facile. Mais il faut s'efforcer, il faut veiller et prier constamment. C'est écrit dans la Bible, hein, le Seigneur ne nous l'a pas caché. Mais dans les maladies, il y a aussi les maladies auto-immunes. Vous savez ce que c'est qu'une maladie auto-immune ? Ben, il y a auto-immune. En fait, c'est le système immunitaire qui se met contre notre corps et qui va se battre. Au lieu de se battre contre des choses pas bien, il va se battre contre nous. Et ça, c'est terrible. Moi, c'est ce que j'avais. C'était une maladie auto-immune, toute l'inflammation dans les articulations. Et une maladie de Crohn, c'est ça aussi, hein, une inflammation non justifié des intestins. Il n'y a rien, puis ça s'enflamme. Il y a un dysfonctionnement. Et moi, ça m'a fait penser à Galates 5, 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ça, c'est une maladie auto-immune. On se mange les uns les autres. Mais on n'a pas été fait pour ça. On n'a pas été fait pour ça. On a été fait pour se donner les uns aux autres, pas pour nous manger les uns les autres. Dieu ne veut pas ça. Ben, dans l'église de Galates, si Paul a dit ça, c'est parce qu'il devait savoir que ça existait. Et on ne doit pas se mordre les uns les autres. Ça, ce sont les symptômes d'une maladie auto-immune. Et il ne faut pas qu'on subisse ce genre de maladie. Le remède, c'est le même. Hein. Veillez et priez. Ne donnons pas accès au diable. Résistons-lui. Or, c'est vrai, il y en a qui ont plus tendance à parler de quelqu'un à un autre. C'est un penchant naturel. ben, auquel nous devons vraiment apprendre à résister. Parce que c'est mieux d'aller voir la personne et de lui parler gentiment. L'amener à réfléchir, à modifier son comportement, mais souvent c'est nous qui devons changer. Hein. Ben, j'arrive au bout, mais j'aurais pu aussi comparer l'Église, le corps de Christ, à toute autre chose. Moi, j'avais pensé aussi à un orchestre. Parce que dans un orchestre, tous les musiciens sont importants. Et ils doivent tous jouer. Ils ne jouent pas tous la même partition, hein, parce que sinon ce serait vraiment pas, ce serait pas riche. Ils jouent chacun des notes différentes. Mais si jamais il y en a un qui joue une fausse note, ça s'entend tout de suite. Hein. C'est pas beau. Mais ils jouent tous au rythme du chef d'orchestre. On est d'accord ? Le chef d'orchestre bat la mesure. Et est-ce que la symphonie que nous chantons, je ne parle pas des chants, hein, mais est-ce que quand Christ nous regarde, est-ce qu'il voit une mélodie de service, une mélodie de prière, une mélodie spirituelle qui est belle et qui correspond à la mesure qu'il bat? C'est ça, hein, qu'on doit faire avec Dieu. On doit le servir et suivre l'horloge divine, le battement du chef d'orchestre qui est Dieu, qui est Christ. Et j'aime bien réfléchir à la partition qu'écrit un compositeur. Vous imaginez ce qui se passe dans sa tête? Oh, là-bas, les percussions, ils vont faire ça. Les premiers violons, ils vont jouer ça. Et il entend dans son cerveau, il entend ce que ça va donner. Les notes de lui en même temps que les notes de lui, le rythme là, lui il va faire avec ça, là-bas les vents, ils vont faire ça. C'est beau. Ouais, là-bas, il va manquer un petit truc là, on va ajouter ça. Parce que quand ils conçoivent une partition, ils entendent dans leur tête, les compositeurs, tout ce que ça va donner. Et chaque petite note, ah, vous savez, celui qui joue du triangle là-bas tout au bout, il va taper 3-4 fois sur son triangle pendant tout l'orchestre. Il peut se dire, bon, franchement, si j'étais pas là, mais pourtant, au moment où il le fait, c'est sacrément important. Parce que s'il ne le faisait pas, il manquerait quelque chose. Et bon, il n'y a pas de troisième violon, c'est dans les petits orchestres de Hasbrouck qu'il y a les troisièmes violons. Mais on va parler du petit orchestre d'Hasbrouck. Les troisièmes violons, s'ils se disaient, oh, nous, franchement, on joue quoi? Boum, 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 boum. Une note comme ça de temps en temps. Ben oui, mais c'est justement ce qui fait le fond, la petite note qui va aider les premiers violons à rester bien calés sur le rythme. Parce que c'est eux qui vont faire boum, 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 boum. Boum, boum. Et ça va aider les premiers violons à rester bien en phase. Et s'ils ne le faisaient pas, ben les premiers violons passeraient à côté. Et il y a des instruments comme ça qui donnent le départ à d'autres. Et si les autres ne sont pas attentifs, ben ils loupent le départ. Et c'est vraiment un travail de cohésion, d'ensemble, où chacun est indispensable. Et nous, en tant que peuple de Dieu, on est aussi un orchestre aux yeux de Dieu. Et si on lit la Bible, on se rend compte que la musique, elle tient quand même une sacrée place dans le cœur de Dieu. Et au ciel, il n'y aura plus de violon, mais il y aura des trompettes. Il y aura des musiciens. Il y aura un orchestre. Parce que la musique, aux yeux de Dieu, ben c'est quelque chose d'important dans sa louange. Et est-ce qu'on est un bel orchestre? Est-ce qu'on joue constamment les bonnes notes que Dieu veut que nous jouions? Et ça fait penser aux œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Elles sont écrites sur la partition de notre vie. Et Dieu, ben, il attend qu'on les joue, ces notes. Elles sont écrites. Et il faut qu'on comprenne qu'on doit les jouer. Est-ce qu'on entend le signal, l'horloge, par le Saint-Esprit, que ah, ça, c'est le moment, vas-y, joue ta note, vas-y. exprime-la avec tout l'amour que tu as, exprime cette note qui est écrite sur ta partition. Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on est en phase? Est-ce qu'on est attentif? Est-ce qu'on écoute cette direction de Dieu pour répondre aux besoins du peuple de Dieu, pour jouer la partition qui est la nôtre, pour donner à l'autre? Vous voyez, c'est tout un ensemble qui avance dans une infinie beauté de cohésion, d'harmonie et de sens. Ben, le peuple de Dieu, l'Église de Christ sur la terre, elle doit avoir cette beauté d'orchestre qui joue, pas pour lui-même, pour la louange du Créateur. Et ça doit être vraiment beau, tout ce qu'on fait pour Dieu, ça doit avoir cette beauté dans l'amour de Christ. Je vais m'arrêter, j'ai respecté le timing. Bah, que le Seigneur nous bénisse dans cette unité d'amour les uns pour les autres, dans cette unité de tout ce que nous faisons pour l'amour de Christ, pour l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour l'avancement de son règne. Amen.